Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création radiophonique sur Canal B.
Bienvenue dans Gymnastique sonore, une émission de l'association Bande Magnétique qui vise à développer vos biceps auriculaires grâce à des exercices hebdomadaires savamment élaborés par les auteurices. Les menstruels, c'est un collectif de correspondance à voix multiples. Des missives de femmes éparpillées en France et ailleurs. Tous les 2 mois, un thème est choisi pour composer les échanges. Tous les 2 mois, on diffuse un épisode sur Canal B. Ce mois-ci, les indésirables s'invitent dans l'émission, sous forme de micro-organismes, de sons, d'humains, de pensées, nombreuses ou fugaces, qui gratouillent ou encombrent. Les menstruels ont choisi de faire une fixette sur ces petites choses qui dérangent. Qui se considère comme hôte et qui se fait parasite. Oreilles et âmes sensibles s'abstenir, présence de larcènes et d'anecdotes sans équivoque.
Est-ce que tu veux enregistrer ?
Il y avait un frelon rouge et une assiette rouge aussi dans le lit.
Les menstruels. Correspondance éclatée à X voix.
Tic, tic.
Chères toutes, ce mois-ci, les indésirables s'invitent. Sous forme de micro-organismes, de sons, d'humains, de pensées, nombreux ou fugaces, qui gratouillent ou encombrent. Nous avons choisi de faire une fixette sur ces petites choses qui dérangent. Oreilles et âmes sensibles s'abstenir, présence de larcènes et d'anecdotes sans équivoque.
Chères toutes, j'enregistre depuis l'Ariège, où je passe de bonnes vacances. Mes copines helveuses me parlent du parasite de la douve. Et puis d'autres petits trucs comme ça, appétissants qu'elles retrouvent dans leur troupeau.
Alors, la douve, tu vas allumer ?
Ça y est.
Ça y est. Du coup, il est ingéré par les bêtes. C'est souvent dans les endroits où c'est vachement humide. Et en fait, il se développe dans le corps de la vache. La vache, quand elle va faire ses besoins, ça se retrouve dans les bouses de vache. De là, en fait, il y a les escargots qui, eux, vont se balader. Ils vont passer dans les bouses de vache, sont souvent attirés par l'humidité des bouses de vache. Les œufs vont se mettre dans l'escargot. Ils vont aussi se développer dans l'escargot. Ils vont se développer assez pour devoir expulser. Donc, les œufs vont éclore dans l'escargot. Du coup, ils vont éclore dans l'escargot. Ils vont s'étaler dans la bave. Donc, ils vont sortir par la bave. Donc, l'escargot, lui, en se faisant une traînée de bave, les œufs vont se réétaler tout au long de la bave d'escargot. De là, les fourmis vont passer, vont traverser, vont être en contact à la bave d'escargot. La petite douve rentre dans la tête de la fourmi. Elle va le diriger en fait en haut d'une tige d'herbe pour que les vaches ou les petits ruminants repassent, remangent et soient réingérés. En fait, c'est un cercle, c'est un cycle. Et donc ça fait animaux, sortie d'animaux, escargots, traînés donc de bave, fourmis. Donc ça monte dans le cerveau de la fourmi, ça dit à la fourmi, monte en haut d'une tige d'herbe pour que les petits ruminants ou les animaux repassent, le remangent et le réingèrent. Et ce qui est quand même fou, ça va être la fourmi, quoi. Tu vois, vraiment de rentrer, de prendre possession du cerveau de la fourmi pour la faire mourir en haut de ce brin d'herbe pour qu'il y ait de nouveau un ruminant qui repasse derrière, qui le remange, quoi.
Ah, c'est dingue.
C'est visible.
Alors ça, c'est visible, par exemple, quand tu tues une bête ou tu prends le foie, tu le coupes en deux. Et en fait, quand tu appuies sur le foie, ça fait des petits vers qui sortent. Après, je te lise le petit...
Ouais.
La petite douve pond alors ses œufs qui sont éliminés dans les fesses, donc c'est dans les excréments. Donc la résistance des œufs dans le corps des animaux, c'est pendant 5 ans. L'escargot avale alors les œufs et excrète des boules agglomérées de mucus contenant des cerquaires. La fourmi se nourrit de ce mucus et ingère les cerquaires. Il se produit alors un phénomène unique en parasitologie, engendrant la contraction mandibulaire qui bloque la fourmi en haut des brins d'herbe, favorisant la contamination.
C'est vicieux.
Ce phénomène est accentué lorsque la température est inférieure à 13 degrés, donc essentiellement en fin de nuit.
C'était pour quoi?
Mais pour le parasitisme.
Pour le parasite du pif?
Non, la douve, c'est un petit ver qui se retrouve dans les vaches.
Voilà, dans les ruminants.
Dans les ruminants.
Ouais, les chevaux ne l'ont pas, ça.
Les chevaux l'ont pas, non, je crois que c'est les vaches. C'est essentiellement les vaches, et c'est surtout dans les bordures. Il faut qu'il y ait vraiment des endroits où il y ait beaucoup d'escargots. C'est pas des escargots communs aussi, c'est des escargots particuliers. C'est ceux qui sont un peu pointus. C'est une variété d'escargots qu'il n'y a pas partout.
Donc quand tu vois ces escargots-là, tu les tues?
Non, ça sert à rien. Par contre, si t'as une rivière, t'évites de faire pâturer les vaches autour de la rivière, toujours. Parce qu'en gros, on dit qu'au bord d'une rivière, c'est les 50 mètres aux alentours où il y a la petite douve.
Et pourtant, quand t'as une rivière, t'as envie de laisser les vaches parce qu'elles ont de l'eau, quoi.
Et ouais, il faut surtout pas. Moi, j'ai eu de la petite douve, du coup, sur la dernière vache que j'ai foutue à l'abattoir, là.
La petite ?
Ouais.
Ah bon ?
Et du coup, je pense que c'est justement, tu sais, dans l'AFP, là, les ruisseaux souterrains, quoi.
Donc,
je pense
qu'ici, il y en a. Il y a un vermifuge pour ça ?
Mais vu que moi, je les vermifuge quasiment pas.
Et il y a un vermifuge qui est efficace
Ouais, c'est un vermifuge particulier.
Une fois qu'ils l'ont ?
C'est une fois qu'ils l'ont. Et du coup, quand tu fais, par exemple, des autopsies, tu peux avoir des foies où tu ouvres le foie et tu vois des tracés. Donc, tu vois que les vers se sont développés dedans.
Et t'as rien en prévention ?
Il y a rien en prévention, mis à part éviter toutes les zones humides et compagnie, quoi.
Ouais. C'est rare, les parasites que tu peux pas gérer en amont.
Il faut éviter tout ce qui est sur pâturage, par exemple.
Ouais, je parlais médicalement.
Moi, par exemple, ça peut être intéressant. En chèvre du Rove, sur le troupeau que j'avais, quand même, on a eu zéro parasitisme pendant 8 ans.
Ah ouais.
Étant donné que t'as un grand pastoral, et en fait, dès qu'on avait un peu les bêtes faibles, etc., on faisait des coprologies, donc c'est des analyses de crottes. Et en fait, tous les analyses revenaient tout le temps à zéro, alors que de partout, tout le monde était en explosion de parasitisme.
Ouais, et ouais, parce que moi, je pense que le fait que t'aies du pâturage libre, entre guillemets, qu'il soit pas parqué, les animaux, ils ont une intelligence aussi qui fait qu'ils vont choisir les plantes pour se soigner tout seuls, en fait.
Par exemple, moi, je le voyais sur les sessions où tout ce qui est fougère, et en fait, toutes les bêtes qui étaient faibles, au moment où elles poussent, alors qu'on dit que les fougères sont hyper toxiques, elles sont capables d'en dégommer.
C'est super.
Et grand pastoral, parce que tu les laisses suivre, quoi. Et surtout, les périodes de printemps, ben, je leur laissais vraiment des gros quartiers, et je les laissais se suivre, voir où c'est qu'elles allaient, quoi. Et moi, chaque année, ce que je faisais, c'est que je partais en garde avec la tronçonneuse à partir de mai à peu près. Et là, je tombais des noisetiers. Donc, noisetiers, frênes, chênes. Et je leur faisais à peu près 8 jours d'affilée. Je mangeais que du feuillu. Dans le chêne, il y a du tanin. Enfin, voilà, du coup, et ça, c'est la meilleure vermifuge qu'ils puissent avoir, quoi. Et tous les parasites comme la douve, etc., il y a énormément de parasites qui sont au sol. Des chèvres comme la chèvre du Rove ou même des brebis qui sont plus rustiques, qui vont aller plus dans les arbustes, dans les feuillus et compagnie, et moins la tête au sol dans la jeune herbe. Du coup, il y a vachement moins de risque de parasitisme. Elles s'adaptent vachement plus. Et après, du coup, il y a le truc, j'aimerais bien qu'on fasse ça avec les chevaux, parce que du coup, les chevaux, c'est vachement intelligent. Et les ruminants, d'ailleurs. Au niveau des huiles essentielles, on s'est rendu compte qu'ils s'autogèrent énormément. Donc, il y a un nouveau truc, on appelle ça des barres à minéraux ou des barres à huiles essentielles.
Ah oui.
Donc, dans les bergeries, par exemple, on met des grosses éponges qui sont imbibées de certaines huiles essentielles avec du rillage autour pour pas qu'ils les bouffent. Et on va laisser les animaux aller d'eux-mêmes. Mmh. Donc, par exemple, l'huile essentielle de cannelle girofle, ça va être tout ce qui est vers, strongles intestinaux, strongles pulmonaires, etc. Donc, c'est tous les parasites internes. On va aller sur de la lavande, etc., parasites externes, tout ce qui est mouches, tiques et compagnie. On va aller sur des parasites qui vont être sur les respiratoires. On va aller sur de l'eucalyptus, la menthe poivrée. On va faire un truc parasite externe. Donc tout ce
qui est parasites tiques. Respiratoires, par exemple.
Strongles pulmonaires. Alors après, ça peut être les miases.
Du coup, c'est toujours des vers quand on parle de parasites.
Alors,
ça peut être d'autres.
Alors en fait, il y a de tout. Il y a des vers. Il y a aussi, par exemple, il y a des mouches qui pondent à l'entrée des narines, des brebis. Donc essentiellement sur les brebis, parce que les chèvres, elles les virent. Les brebis, au moment où elles sont en train de chômer, qu'elles se posent. En fait, il y a des mouches qui viennent pondre à l'extrémité des narines. En respirant, en fait, les œufs rentrent dans le nez, donc au niveau des narines. Ils se développent dedans. Et en fait, ça se développe à l'intérieur. Et donc, par exemple, si on a une bête qui est malade, si on fait une autopsie, par exemple, sur un troupeau quand on se pose des questions, les premiers trucs qu'on fait, c'est qu'on euthanasie la bête et on ouvre au niveau de la narine et on va casser le nez pour aller vérifier. Et on se retrouve avec une quinzaine de vers de 3 à 4 cm. Donc, c'est des larves de mouches. Donc, c'est des miases, c'est assez particulier, qui se mettent là-dedans. Et les miases, elles vont aussi pendre, par exemple, dans l'anus. Elles vont aller pendre au niveau des cornes. Elles vont aller pendre dans la laine, s'il y a une blessure et compagnie. Elles vont se développer comme ça, quoi.
Mais tu vois la mouche gastérophile ?
Ouais.
C'est celle qui fait les petits œufs jaunes sur les pattes des chevaux. Et en fait, elles viennent pondre sur les pattes des chevaux aux endroits où ils se grattent. Et quand ils se grattent, ils vont en bouffer un peu parce qu'ils se grattent avec la bouche. Et du coup, en fait, t'as les vers qui se développent dans le bide, dans les intestins, l'estomac. Et c'est assez vénère aussi. Parce qu'en fait, t'as plein de parasites comme ça qui sont très spécifiques à des animaux. Et du coup, par exemple, on a tendance maintenant à beaucoup privilégier les élevages avec plusieurs types d'animaux. Parce que par exemple, les vaches et les chevaux, ça va très bien ensemble parce qu'ils n'ont pas des parasites qui se transmettent. Et ils mangent pas, ils ont pas les mêmes refus aussi dans les pâturages. Du coup, tu fais passer les chevaux, tu fais passer les vaches après. Les refus des chevaux, les vaches vont les manger et vice-versa. Ils vont pas s'entre-parasiter. Donc c'est vachement mieux que d'avoir que des vaches ou que des chevaux dans certains endroits. Ça, c'est cool.
Et ça arrive souvent, ça, que les animaux soient contaminés par des parasites ?
Ils sont tout le temps
ils sont
contaminés par les parasites, quasiment. En fait, les chevaux, quand tu vois les vers, c'est que c'est déjà,
oui, c'est trop tard.
C'est déjà ouais. Bien avancé. Ouais. En général, quand tu fais les copros, en fait, ils regardent pas les vers, ils regardent les œufs. Et ça, c'est pas visible à l'œil nu, tu vois. Parce que s'il suffisait de regarder, ce serait trop facile.
Après, on dit même sur les ruminants, tu vois, quand les crapauds, choux, les ruminants, par exemple, on dit que quand il y a les vers qui sont sortis, c'est qu'elles ont fait aussi des défenses immunitaires pour les évacuer.
Ok.
Et en fait, que justement, c'est positif de voir des crottes avec des vers. Ça veut dire que le corps s'est assez développé pour évacuer les vers.
Ouais, enfin, moi, ça me donne quand même envie de vérifier s'il n'y a pas des œufs.
Et là, moi, par exemple, sur les brebis, je ne vais pas attendre. Elles sont super, elles sont grasses comme des cochons.
Et je voulais te proposer parce que moi, je les envoie.
Ah, tu veux qu'on fasse une copro ?
Pour faire la copro, je les envoie. Donc là, ça va être le printemps. Je me suis dit, vu que.
Non, c'est gratos.
Ben, c'est les premières qui sont gratos, mais après, je crois que c'est même pas 5 balles par animal.
Crapaud, oui. Chou, choups-douche.
Là, tu les envoies tous les combien de temps, les bêtes, faire les copros ?
Alors, tu les envoies pas, t'envoies des échantillons de caca par la poste.
Okay.
Et tu l'envoies à, comment ça s'appelle, Alliance Pastorale. Et en fait, ils te font ça vraiment pas cher. Et du coup, moi, pour les chevaux, en fait, normalement, la grosse période où tu as des risques, c'est à la fin de l'été. Et du coup, à ce moment-là, c'est bien de faire une copro. Mais là, vu que cet hiver, c'était pas très clair, il y en a qui ont été vermifugés, qui étaient pas bien, pas les autres et tout. Du coup, je me dis au printemps, là.
Sur un troupeau basique, on va être sur 2 vermifuges chimiques par an. Moi, par exemple, pour donner une idée, voilà, pendant 7 ans, plus de 7 ans, j'ai pas vermifugé le troupeau parce que, suite aux analyses, je savais que j'avais rien du tout, quoi.
Il acquiesce.
Oui.
Et sur les chevaux, tu vermifuges systématiquement les jeunes. Et après, quand ils commencent à être vieux aussi, parce qu'ils ont un système immunitaire qui n'est pas fait. Et sur ma jument, quand elle était toute petite, je voulais éviter de trop mettre de produits et tout, et de faire des copros. Mais elle était clafie de parasites. Ils sont trop jeunes pour se défendre tout seul. T'es obligé.
Après, à savoir tout ce qui est parasites des animaux, en fait, le problème, c'est que les parasites s'adaptent aussi de plus en plus aux vermifuges et que la plupart des antiparasitaires ne sont plus du tout efficaces. Ouais. Et donc ça devient un gros problème. Et là, il faut revenir justement sur du grand pastoral. Là, t'as vu mon troupeau, par exemple, je l'ai lâché ce matin. Là, il est encore dans la pampa. Elles sont pâtures sur 300 ou 400 hectares.
Et je peux revenir au truc des huiles essentielles ?
Ouais.
Parce qu'en fait, je pense pas que tu vois, le fait de sentir ces éponges, ça les soigne complètement en fait.
Non,
ça te donne l'indication de ce vers quoi aller, est-ce qu'il y a un problème là, et du coup tu sais où regarder et agir.
Toi, en tant qu'éleveuse.
Ouais.
Ouais.
Parce que tu vois ce qu'il
bouffe.
Ouais, moi je sais que ma jument, tu vois, quand on part en balade, bon, elle a pas le droit de manger quand on bosse, mais quand je la laisse un peu, je regarde ce qu'elle mange. Parce qu'il y a, enfin des fois elle fait des fixettes sur certaines plantes, okay. Et du coup je me dis, attends, l'autre elle arrête pas de bouffer ce truc, pourquoi ? Et du coup, enfin, je regarde un peu dans les bouquins et tout, et ça donne des indications quand même,
ouais,
de ce qu'elle peut manquer.
Alors, du coup, il y a la petite douve, il y a le cycle de la petite douve, et donc l'autre, c'est le ténia, qui a un cycle très particulier. Donc on va le retrouver sur le renard, on va le retrouver sur les chiens,
les
etc.
Chevaux.
Sur les chevaux. Donc, en fait, le ténia adulte se met dans le chien, il se développe dans le chien, donc il fait des œufs et compagnie, il va s'éliminer dans les selles. Derrière, les petits ruminants vont passer le manger. Le ténia, du coup, dans la brebis, il se développe et il bouffe tout. Donc, il est sur les viscères,
il va partout.
Donc, il va partout. Et après, jusqu'à monter, justement, alors c'est assez rigolo, c'est les brebis vont revenir mourir proche de l'homme. Par exemple, une bête qui est malade, elle va tendance à s'éloigner. Et là, le ténia fait en sorte que, du coup, les animaux vont se mourir proche des carnivores. Et du coup, pour que le chien rebouffe la bête morte et rechoppe le ténia.
C'est tellement intelligent.
C'est magique.
Tu
moi,
peux avoir
je trouve
des
ça
champignons sur la peau, dans les pieds, des vers dans les boyaux, dans les estomacs, dans les poumons. Il y en a, enfin c'est ce qu'elle disait, qui montait dans le cerveau, dans le pif. Franchement, c'est impressionnant.
Ils ont une capacité d'adaptation qui est incroyable.
Bah, d'où le nom parasite, en fait. Ça veut dire un peu ça. C'est quelque chose ou quelqu'un qui s'invite chez quelqu'un d'autre.
Et que bah, le parasite, je crois que la définition que moi j'avais retenue, mais le parasitisme, c'est vraiment un qui va affaiblir l'autre, qui se nourrit à ses dépens. Quoi.
C'est fou là, du coup, que les petits ruminants n'aient pas une alerte à se dire faut pas manger les crottes de chien. Comme on parlait tout à l'heure des choses qui seraient censées être intuitives.
Bon, moi par exemple, Chiara, on a toujours des sacs à caca, par exemple.
Même partout à la campagne.
Même à la campagne. Ah ouais, ouais.
Ah ouais.
Même à la campagne. Ah ouais, toujours. Mais il n'y a que ici, et tu vois, j'essaie de les ramasser, et mes chiens sont vermifugés, c'est très carré, tu vois.
Mais à la campagne, enfin, je veux dire que si tu te balades sur un chemin, tu ramasses pas...
Non, mais tu vois, là, tu te balades sur un chemin, les chiens, les gens, ils viennent se balader avec les chiens dans mes parcelles, où tu vois, t'as le réflexe, quand tu vois un grand champ, d'aller faire courir les chiens dedans. En fait, s'ils chient dedans, mais les animaux, ils sont empêchés derrière, quoi.
Oui, donc, sur des parcelles qui peuvent être occupées par des ruminants ou d'autres bêtes, évitez de laisser traîner ces caquets de chiens.
Ouais.
Moi, je me posais la question de savoir, parce que en fait, les humains, on a rarement des vers. Moi, je me souviens pas en avoir déjà eu dans ma vie, peut-être gamin, je sais pas. Mais alors, est-ce que c'est parce qu'on bouffe vraiment des trucs dégueulasses que même les vers, ils
crapaud,
en veulent pas?
Chou, crapaud, chou.
Je sais pas
du tout. Crapaud, chou.
Parce que c'est vrai que les animaux, enfin, comme on vient d'en parler en long en large, ils en ont quand même. Enfin, t'as quand même un panel assez intéressant.
Chou.
Mais les gens, je sais pas.
Mais je pense qu'on a moins ça parce qu'on fait aussi attention, tu vois. On sait que si on mange de la viande avariée, on peut avoir un verre.
Je sais pas.
Moins de
regarde les chevaux, ils mangent que de l'herbe.
Eh ben ouais.
Y a au moins faire.
Autre chose, après, je vais rentrer mes brebis avant qu'elles fassent des conneries. Les éleveurs aussi, il y a beaucoup le réflexe du vermifuge. Et moi, je trouve que dans les formations, j'ai eu pas mal de stagiaires et compagnie et on parle pas assez de ça, du coup, des copros qui sont hyper nécessaires. Bon, en fait, j'aurais pas fait de copro pendant 7 ans, mais j'aurais vermifugé 2 fois par an. À savoir, dans les vermifuges, par exemple, nous, à l'école, là, on a eu des cas de gale. Donc, on a eu une épidémie de gale dans le village.
Du coup, la gale, c'est un parasite aussi.
Et donc, la gale, c'est un parasite aussi.
Ça ressemble à quoi?
C'est comme un petit acarien qui va sous la peau.
Qui fait des galeries.
Qui fait des galeries sous la peau. Et donc, pour couper l'histoire de la gale, tous les gamins ont bouffé un cacheton. Et la molécule, c'est...
Ivermectine.
Ivermectine. Donc, c'est des vermifuges qu'on donne justement aux chevaux et aux brebis, etc. Et ça fait les parasites externes aussi. Donc par exemple, mes parents étaient contents en disant « Ah, bah, trop bien, comme ça, ça va tuer les poux et compagnie. » Et c'est bien parce que moi, ça a été un éleveur du village qui en conventionnel et compagnie qui a répondu aux parents en disant « Nous, on donne ça aux vaches dans des cas extrêmes. » Et par exemple, la molécule ne se détruit pas dehors. La molécule ne se détruit pas et c'est destructeur pour les cheptels d'abeilles.
Mais pour le coup, pour les gamins, il n'y avait pas d'autre solution.
Il n'y avait pas d'autre solution. Parce qu'il y a eu déjà des épidémies de gale ici et qui sont mis en continu, quoi.
Trop bien. Salut les radioteuses, je viens de passer 3 jours à être stupéfaite et en même temps à essayer plein de choses par rapport à des ordinateurs qui ont explosé. Donc la carte que je voulais vous faire... Aïe! Mais arrête putain, pardon, le chat m'attrape le câble. Ouais, en fait je voulais vous partager des...
Et Maud, ma copine Laï, qui est chinoise et puis que j'enregistrais il y a 10 ans, quoi, qui m'avait, enfin, je la filmais, j'allais lui rendre visite parce qu'elle était en atelier, elle était en résidence dans une maison d'art, je sais pas quoi. Et elle faisait de la BD, Laï. Enfin, elle fait de la BD toujours, elle dessine. Donc du coup, ben, je voulais vous partager ça parce qu'elle me racontait son tatouage qu'elle avait sur le poignet. Elle s'était fait tatouer le mot en français, donc parasite. Et puis, dans une des vidéos, bah, elle me raconte un peu que c'était en fait sa mère qui l'appelait comme ça, qui disait ça. Apparemment, une sorte d'expression comme ça, probablement que sa mère n'était pas la seule à le dire. Mais du coup, là, il avait pris au mot et puis avait assumé ce mot-là. Et le lui avait signifié aussi, donc... Ce mot parasite, je le voyais à chaque fois que je la filmais parce qu'il était sur son poignet gauche. Pardon, j'ai un peu du mal à parler parce que ça fait 3 jours que j'ai le museau dans ces machines et c'est complètement vertigineux parce que ça me pose des milliers de questions sur mon rapport aux outils, mon rapport à ces machines qui ont pris beaucoup, beaucoup trop de place dans ma vie ces dernières années. Ah, ben voilà, l'ordinateur de secours fait un drôle de bruit. Bon, j'en sais rien. Et puis, bref, donc en réfléchissant en même temps sur... parce que, évidemment, je suis en stress total parce que je suis en fin de projet. Pour lequel j'ai besoin de mon ordinateur qui s'appelle Symbiose. Alors, je ne sais pas si vous y connaissiez en biologie des organismes et des écologies, on va dire, forestières, mais pas que. Mais les symbioses, donc, c'est des interactions de vie, mais de coexistence, en fait, entre des organismes qui, parfois... Pour certaines, alors du coup on parle plus de symbiose, vire dans le parasitisme, où du coup là on est plus dans des types d'articulations entre des êtres vivants qui se tirent mutuellement le sang ou des nutriments, une partie l'un de l'autre, etc. Enfin bref, le parasitisme, c'est ce que vous connaissez quoi. Donc c'est rigolo parce que c'est absolument pas drôle, mais en tout cas c'est des questionnements qu'on a eu aussi avec les enfants avec qui j'ai fait ce projet sur quel type de liens et de relations on a ensemble, quel type d'échanges peuvent se mettre en place aussi à la fois entre nous, les petits humains que nous sommes, comme des grandes mousses ou des grandes lichens le vivent à leur échelle, mais aussi entre les langues. Bon, voilà, du coup, vous entendrez pas ma copine Lei, que j'adore écouter avec son accent chinois et puis ses expressions bien à elle. Tant pis, bon sang, comme elle dirait. C'est dommage parce que j'étais contente de pouvoir retrouver ces images du passé. C'était il y a longtemps. Et puis ma copine, elle a dû repartir parce que elle n'avait pas les bons papiers dans un pays qui n'est pas d'accord que tout le monde reste quand on n'a pas les bons papiers. Donc elle est repartie en Chine. Et puis maintenant, elle dessine toujours là-bas, quand même. Malgré tout, malgré la folie globale. De bien trop de choses, et puis j'imagine qu'il a toujours son tatouage. Sur un autre registre, ma copine Pauline, elle fait des super chansons, elle s'accompagne d'une bouilloire, c'est son nom de scène, Pauline à la bouilloire. Alors bonne écoute, et puis bon courage avec les machines, mais surtout avec toutes les réalités du présent pour qu'on puisse quand même aller vers le futur. Allez, salut, je vous embrasse et je vous souhaite vraiment tout du bon. Ciao.
Dans des putains de cases de la mort, dans des putains de cases de la mort, dans des putains de cases de la mort, dans des putains de cases de la mort. Pourquoi j'y suis? Pourquoi t'es là? Pourquoi ici? Et pas là-bas? Pourquoi on dit que c'est comme ça? Pourquoi on veut que ça bouge pas? Pourquoi on reste dans des putains de cases de la mort, dans des putains de cases de la mort? Pourquoi moi je parle comme ça? Pourquoi que toi tu parles comme si? Pourquoi nous deux on se comprend pas? Pourquoi tu ne? Pourquoi je veux, pourquoi tu préfères te taire, pourquoi elle ne redit plus rien, pourquoi ça ne reprend pas bien, et ce regard qui se tourne en biais, et tous ces yeux qui se voient jamais, tout ça parce que ces putains de cases de la mort, ces putains de cases de la mort, et ces putains de cases de la mort. Puisqu'il est vieux, paraît que c'est mieux qu'il reste chez lui, il préfère pas qu'il prenne sa caisse, des fois qu'il soit devenu dangereux, c'est mieux pour eux que tu restes assis dans ta putain de chambre de la mort. Vieux qui dit oui, vieux vieux qui peut plus. Oh le bon vieux, oh la belle case de la mort. Handicapé, si tu bosses pas, tu produis rien. C'est forcément que tu vaux pas, que tu vaux rien. Quand tu travailles, t'as pas de droit et un salaire qui en est pas un. Pas de syndicat, juste le droit de rester poli, de dire merci dans ta putain de case. Dans ta putain de case de la mort, dans ta putain de case de la mort. Combien il y a de putain de cases de la mort, dès qu'on n'imagine même pas. Pas besoin de clous, pas besoin de bois, pour faire des putains de cases de la mort. Pour construire des putains de cases de la mort, pour polir des putains de cases de la mort. A priori, pas besoin de feu pour démolir ces putains de cases de la mort. Alors à quand les adieux aux putains de cases de la mort?
Travail, travail, le travail, le travail, le travail, 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 travail.
Travail, travail, travaux, ouais. Travail.
Travail, travail, travail.
Travail, donc il faut travailler là-dessus.
Les gens craignent la fin du travail. Travail, il y a toujours du travail, travail humain, travail, etc. Les nouvelles formes de travail, il y a des travaux.
Oui, il commence à y avoir des travaux quand même, du travail. Donc on a de plus en plus de travaux du travail. Travail,
travailler, travail, travail.
Travailler aussi sur le travail, donc les marchés du travail. Pour les femmes au travail, le nombre des femmes au travail.
En âge de travailler.
Il y a une très forte chute du travail masculin.
L'entrée des femmes sur le marché du travail, le fait qu'elles travaillent, c'est déjà quelque chose qui est beaucoup plus travail. Travail. Les travaux. Tous les gens qui travaillent, travaillent. Donc l'avenir du travail.
Travail. Travail. Et puis un travail plus inventif, plus autonome. Travail non qualifié.
Travail, mon travail, mon travail, travail. Travail, 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 travail.
Le travail, travail, et du travail, 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 l'avenir du travail au travail.
Il y a de plus en plus de travaux du travail, travail, conditions de travail, du travail, la soutenabilité du travail, du travail.
Travail,
travail, l'offre et la demande. Travail, 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 travailler,
travail, travail.
Il y a tout un travail à faire.
Peur de la perte de travail. La fin du travail n'est pas pour demain.
Non, moi je ne pense pas non plus que la fin du travail soit pour demain.
Eh bien, merci, merci beaucoup. Vos travaux, on va évidemment les mettre en ligne sur notre site. Travail, travaux, travail.
Ouais, c'est bien, moi j'adore les bruits de porte.
C'est toi qui ouvre là, je peux pas ouvrir.
Mais du coup, tu me dis quoi? On se dit juste comme tout à l'heure, en fait, juste oui. Yo, tu vas bien? Je te fais un petit bruit de bise ou pas? Bruit de bise, j'aime bien les bruits de bise. Bon, c'est grand jour, je vais parler de Nicolas Framond, c'est ça?
Bah ouais.
C'est vrai que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je trouve ça trop chouette que tu traites de ce thème aujourd'hui, Parasite. Il y a une partie dans le livre de Nicolas. De Nicolas, je le parle comme si c'était mon ami, mais. Donc, il y a une.
Non, vous me suivez sur Instagram. Hein,
oui, c'est vrai, c'est vrai. Chut, faut pas le dire. J'espère qu'il n'entendra jamais ça, il va me dire que je vous parle super mal du livre en plus, peut-être.
Par contre, il faut faire la fenêtre. Tous ces bruits parasites.
J'avais dû lire un article à l'époque qui était sur le bourgeois gaze. C'était un article qui avait repris le concept de male gaze pour l'adapter au cinéma, avec le bourgeois gaze et comment dans le cinéma français ou le cinéma même international. Il y a toujours ce prisme bourgeois qui est retranscrit à l'écran, les films se passent dans les beaux quartiers, ceci, cela, enfin il y a tout un tas de... Mais voilà, donc je l'avais découvert comme ça. Et il faut savoir donc aussi que Nicolas Framond, donc il est sociologue de formation, et il intervient notamment auprès des CSE en entreprise. Donc il a vraiment une expertise terrain aussi, je trouve, qui est vraiment pertinente, et ça se ressent du coup dans ses articles. Après, je parle beaucoup de lui, mais en fait, ils sont toute une équipe à Frustration d'ailleurs. Quelques mois après l'avoir découvert, il sortait ce livre qui s'appelle Parasite. J'ai eu envie de le lire parce que ça m'intéresse vraiment de creuser, d'approfondir et de comprendre au mieux les mécanismes qui sont à l'œuvre et comment cette classe bourgeoise en fait fait pour maintenir son statut de dominante dans la société, quoi. Et ouais, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que je viens d'une famille d'un milieu ouvrier. J'ai grandi avec une mère qui était femme de ménage et un père qui était magasinier. Et bon, pendant longtemps, je me suis pas pensé en tant que classe sociale. J'ai après subi beaucoup de violences symboliques de par ma classe sociale. J'ai continué mes études et que j'étais entouré en fait que de personnes issues de milieux privilégiés ou issues de la bourgeoisie.
Mes parents, c'est vraiment la classe, on pourrait dire gilet jaune, quoi. Et à ce moment-là, ouais, je me rappelle pendant les cours entendre les autres élèves qui disaient « Vous avez vu ces cas sociaux qui font que de gueuler pour rien, etc. Enfin, » ça, c'était très violent, mais du coup, j'étais arrivé à un stade où ça ne me touchait plus parce que justement, je pense que je commençais à comprendre un peu que c'était eux les parasites, mais pas encore en mettant tous ces mots dessus. Mais... Parce que pendant longtemps, je pense que j'ai eu honte d'où je venais. Donc, je rejetais mon milieu social en me disant « Bah, non, en fait, moi, je veux être comme les autres. » Enfin, j'en voulais à mes parents de pas m'acheter ces vêtements de marque ou de pas m'emmener en vacances à l'autre bout du monde comme les autres, comme mes autres copains, copines, alors que nous, on allait à Brétignolles-sur-Mer tous les ans, quoi, au camping. Et je leur en ai voulu pendant longtemps. Et du coup, quand j'ai compris, en fait, que la condition sociale de mes parents ne venait pas de nulle part, en fait, que ça s'inscrivait dans une guerre des classes beaucoup plus grande et que, voilà, je n'ai plus du tout eu honte de ça. Et au contraire, je me suis dit, bah, je vais entre guillemets faire en faire une force et presque le revendiquer pour justement donner un autre discours autour de moi, notamment pendant mes études où j'étais entouré quasi exclusivement de personnes qui venaient de milieux très privilégiés, milieux bourgeois, quoi. Et des personnes du coup comme Nicolas Framont, c'est des vrais déclics pour avoir les mots que moi je n'ai pas, quoi. Ça m'a permis d'avoir, ouais, de construire mon argumentation, d'avoir une rhétorique que je n'avais peut-être pas, quoi. Comme Nicolas Framont, des livres comme Parasite, c'est clairement des outils qui m'aident aujourd'hui, quoi.
Je peux vous lire ce qu'il y a écrit dessus. Donc là, j'ai la version poche du livre. J'avais aussi acheté la version initiale, mais que j'ai prêtée. Parce que ce livre, j'ai envie de le prêter un maximum. Donc Parasite, hein. Donc déjà, ça interpelle, Parasite. Les classes bourgeoises sont des parasites qui se nourrissent de notre travail, de nos impôts, de notre vie politique, de nos besoins et de nos rêves. La définition parle d'elle-même, hein. Parasite. Être qui vit aux dépens d'un autre sans le détruire. Donc ça, c'est le nom. Et si l'adjectif superflu ou gênant. C'est exactement ça, en fait. C'est que la bourgeoisie vit aux dépens des autres et que c'est donc une petite part de la population qui se nourrit du travail d'une majeure partie de la population, de la classe laborieuse, qui, elle, produit de la richesse et les bourgeois ne font que s'en gaver et ne produisent absolument rien, quoi. Cette classe bourgeoise, elle n'est pas toute seule à faire tenir ce système-là, en fait. Et il y a des classes donc intermédiaires, comme la sous-bourgeoisie et la petite bourgeoisie, qui, en fait, va plutôt par les idées, diffuser des idées qui invisibilisent donc soit la domination de la classe bourgeoise, donc ne pas parler de capitalisme, ne pas employer le thème bourgeois, par exemple, ou bien qui va la légitimer.
Qui va se charger au fil des heures. On peut retrouver quelques flocons de neige, par exemple, du côté de l'Alpe d'Huez en fin d'après-midi, avec ses 2,95 m tout de même en haut des pistes. Et pour Pralou, on a 1,90 m. Et d'ailleurs, on se dirige vers Pralou.
La météo des neiges ou qui parle du ski. Alors que c'est 7 ou 8% des Français qui partent au moins une fois tous les deux ans au ski. Donc ça représente vraiment très, 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 très peu de Français et de Françaises. Et pour autant, on a le droit à la météo des neiges, on a le droit à plein de reportages au ski, en fait, parce que c'est inculqué dans leur pratique, dans les rédactions. C'est pas un ordre qui vient de là-haut, c'est juste on en parle parce que c'est comme ça. C'est un exemple assez parlant de ce parasitisme. Ils sont partout, quoi. Ils imposent leur vision partout, alors même qu'ils sont et elles sont totalement minoritaires, ces personnes-là. Ouais.
Par exemple, avec l'émission quotidienne de Yann Barthès, qui donc accueille tous ces grands bourgeois qu'ils vont encenser comme des grands entrepreneurs qui créent plein d'emplois, qui font rayonner la France, etc. Michel-Édouard Leclerc, ce grand créateur d'emplois qui a des centaines de magasins en France, etc. On estime que pour un emploi créé dans la distribution, il y a 3 emplois qui sont supprimés dans le commerce traditionnel, quoi. Donc en fait, ça a été un vrai bouleversement dans la société, cette arrivée de la grande distribution, qui a remplacé en fait les masses de commerçants qui étaient jusqu'alors plus ou moins indépendants dans de nombreux magasins de grande taille, soumis à des cadences infernales, n'ayant plus d'autonomie dans leur relation avec leurs clients. C'est ça le parasitisme, c'est sur le dos de tous ces gens-là, en fait, qui de coup se retrouvent un peu aliénés à ce nouveau système qui est mis en place. T'as des personnes, des grands bourgeois qui vont juste s'enrichir sur le dos de tous ces gens-là, quoi. Et on est noyé dans tous ces discours. Encore une fois, déconstruire le mythe de « ils se sont fait tout seuls ». Non, il y a souvent un très gros héritage direct. Et parfois, c'est un héritage indirect. Donc, ils viennent de grandes familles avec des parents hauts fonctionnaires, des parents avocats. Il n'y a aucune de ces grandes fortunes qui vient de la classe laborieuse et qui s'est fait toute seule pour en arriver là, quoi. Bon, là, je te le dis un peu plus en off, peut-être. Mais il explique que, en fait, ils se nourrissent de beaucoup de subventions. Tu vois, ils nous disent que c'est nous les parasites quand on est au chômage, machin. En fait, eux, ils profitent de beaucoup de subventions. Le chômage, c'est pas une aide qui tombe du ciel. Hein. J'ai travaillé, j'ai cotisé, je mérite ce chômage. Pour beaucoup de gens encore, le chômage, c'est une situation qui est un peu honteuse, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont honte d'être au chômage, qui n'osent pas le dire quand on leur demande. Ils sont mal à l'aise. Et même moi, des fois, au fond de moi, je suis presque mal à l'aise quand ça dure et que je suis encore au chômage de le dire, quoi. Une vraie adaptation de notre législation au désir des bourgeois d'accumuler toujours plus. Et en fait, c'est pas étonnant parce que il y a une porosité entre cette classe dirigeante et le grand capital qui est présente. Et ils se connaissent. Il y a certains sièges. Il y a une vraie porosité et donc c'est pas étonnant de voir toutes ces réformes qui leur bénéficient.
Et qu'est-ce que ça te fait, toi, de mieux comprendre le système un peu, en fait, capitaliste
Pour moi, c'est vraiment mieux le comprendre pour mieux le combattre, quoi. Et ne pas se tromper d'ennemi, en fait. Je pense que c'est bien désigner l'ennemi, en fait. Peut-être que certaines personnes vont désigner un peu la personne qui profite des aides, selon elle, ou la personne étrangère qui va venir sur notre... sur notre terre et qui va nous voler notre argent parce qu'on va l'aider, etc. Enfin, ça, c'est un vieux discours récurrent de la droite et de l'extrême droite. Mais je vais lire la dernière page du livre avant l'épilogue. Vous qui lisez ce livre, qu'en pensez-vous? Une organisation des gens dans leur vie quotidienne et sur leur lieu de travail, qui ne serait pas dirigée exclusivement par des gens aisés et diplômés, dont les leaders seraient des gens qui nous ressemblent socialement, qui reflète la diversité de la société, y compris sociale. Une organisation qui ne serait pas entièrement tournée vers les élections, mais dont l'action permettrait aux classes laborieuses de trouver un endroit chaleureux, utile et non complexant où se retrouver, échanger et s'entraider. Une organisation qui ne serait pas trustée par des gens obsédés par le prochain siège qu'ils pourront obtenir. Une organisation facile à rejoindre, qui ne nécessiterait pas de parler comme un militant désintéressé, qui ne générerait pas de lourdes bureaucraties et de réunions à rallonge qui génèrent énormément d'ennuis. Est-ce que ça ne donne pas envie? Moi, je réponds oui, ça donne envie, en vrai. Il y a plein de choses à mettre en place aujourd'hui encore. Réinventer les modèles d'organisation, et ça existe déjà aujourd'hui, hein. Des structures qui s'organisent, qui mettent en place des systèmes plus horizontaux dans les directions, qui mettent en place tout un tas d'outils pour éviter les discriminations, pour rémunérer les gens à leur juste valeur. Enfin, il y a de l'espoir, et justement, je pense que ce livre, il permet d'avoir les outils pour bien comprendre et mieux combattre ces systèmes-là. Et l'idée, c'est de mettre en place de nouveaux systèmes, de se battre au sein des systèmes dans lesquels on est déjà peut-être pour certains et certaines et dans lesquels c'est pas facile de sortir quand on est salarié ou quoi. Donc de se battre, de se syndiquer, de lutter. Et puis pour celles et ceux qui ont la chance de ne pas être aliénés dans un travail et qui peuvent créer de nouvelles structures, de nouveaux horizons, qu'ils le fassent, qu'elles le fassent. Il faut en parler autour de nous, il faut réfléchir ensemble, collectivement, à ce qu'on peut faire pour sortir de ce schéma actuel, quoi, du capitalisme. Mais une petite révolution serait pas mal.
Oui. C'est bon, j'arrête ?
Ouais.
Point. Et non cérébral, point.
Ah, du pino il est. Ah, je t'appuie, il est derrière le fromage qui m'énorme de l'eau.
puisque seuls peuvent être charmants. Ceux qui sont capables de s'absorber dans d'autres, de s'absorber dans d'autres, de s'absorber dans d'autres, de s'absorber dans d'autres. Il est piégé dans une zone clair-obscure, à mi-chemin entre les humains et les singes, virgule, entre les humains et les singes, virgule.
Tant voulu entendre des voix que je n'ai plus fini par entendre que ça. Elles m'ont dit, va t'allonger au milieu de la route, tu verras, ce sera chouette, on t'apportera des macroutes, on jouera des rengaines accordées au chant des sirènes. Je les ai si bien écoutés que les accords furent parfaits, en effet. Et l'on m'a emmené dans le premier camion de pompiers qui passait direction l'HP, où l'on m'a donné des cachets, des cachetons, des cachons, des cachetés, fait des piqûres pour me calmer l'humeur, de la fesse droite, la fesse gauche, le majeur des deux mains, plus de doigts, plus d'honneur que des courbatures. Symptômes extra-pyramidal, mais pas de pharaon en vue pour me dire pourquoi je suis si mal. Le médecin-chef est bien moins disponible que la momie de Ramsès II qui trimballe ses bandelettes du vestibule à mes cheveux. Je suis resté 8 jours enfermé, assommé par le poids des cachets. Risperdal perdu dans le cyclone, par quel xéro qu'elle s'accroche le zopiclone. Le Lexomil tape sur les mille qui lentement se défilent. Mes voix n'ont plus voulu me parler. Et puis les jours passants, ce n'est pas qu'elles voulaient pas, c'est qu'elles étaient complètement ensuquées. 40 gouttes d'aldol, 80 gouttes de correcteur. Y a plus rien à corriger, Abilify et plus d'habilité. Un C resta toutes les 2 heures pour que le Célesta continue de jouer. Ses larmes de métal frappent les caisses en bois des cercueils de mes toutes petites voix. J'ai décidé de convoquer tout le personnel de l'hôpital, de dire la vérité aux internes, aux internés. J'ai dit que je les avais toutes tuées, et c'est là qui s'est passé quelque chose que je ne m'expliquerai jamais. On m'a dit « Bravo madame, bravo madame, bravo madame, ah quel beau travail. Ah non vraiment, faut vous féliciter, vous êtes guérie, vous êtes soignée. » Et moi qui pensais au moins 1000 voix étouffées, 1000 voix qui ne parleront plus, patrimoine assassiné. Et moi qui me disais, ethnocide organisé, crime contre l'humanité, 1000 voix trucidées, j'étais prêt à payer, à avoir 30 ans à tirer. Mais non, c'était la liberté. Monsieur le médecin, comprenez-moi bien, je ne peux pas assassiner tous les jours à prise régulière quelque chose ou quelqu'un, une foule qui m'habite. À la limite, ça s'administre. D'ailleurs, monsieur le médecin, passez-moi plutôt monsieur le maire. Peut-être qu'il a des idées qui ne seront pas à avaler avec un grand verre d'eau amère. Avec un grand verre d'eau amère.
Des parasites, j'en ai eu plein. ça m'évoque plutôt le côté parasite de type petite bestiole que t'as pas envie d'avoir sur ton corps, mais qui peuvent y venir et qui sont pas forcément agréables. Voilà, et du coup d'un voyage que j'ai fait qui a duré 2 ans à peu près, dont 1 an à dos de vélo, et où j'ai eu pas mal, j'ai eu un petit éventail de parasites qui m'ont accompagnée pendant le voyage.
Quoi ton top 3 des parasites?
Le top 3 des parasites. En troisième position, je pense qu'il y a les poux. Mais ça, ça avait rien de très nouveau. Je crois que j'ai eu plein de poux quand j'étais petite. Des sessions avec le Prioderme, là, le produit qui pue de ouf. Et à pleurer avec ma mère qui m'enlevait les lentes et les poux. Là, et c'était insupportable, c'était horrible comme période. Et là, c'était un peu plus drôle en voyage. C'était au bord de la plage, on était les deux à se baigner. Et à un moment, je vois sur mon ami une petite bête qui se déplace sur son visage. Et du coup, je me rapproche, je prends et je découvre que c'est un poux. Du coup, je lui dis « Ah, c'est dégueu, t'as des poux !» Et en fait, du coup, il regarde dans ma tête et bien sûr que moi aussi, du coup, j'ai des poux. Et donc, ça m'a suivi quelques semaines à choper des anti-poux à la pharmacie. On dormait souvent chez des warm showers ou des couchsurfers et du coup on avait un peu peur de ramener des poux chez des gens, donc on s'est retrouvés à faire le traitement anti-poux dans la station essence, à se rincer sous le robinet et tout ça. Il y a quelques petits extraits de mon carnet de voyage qui sont drôles un peu. Vers mai 2019, où j'avais écrit « La lutte intense contre les poux se poursuit. C'est un vrai bras de fer avec un ennemi presque invisible. Depuis 2 jours, je trouve des lentes, mais plus de poux. On a racheté du produit. C'est moi qui gagnera. » C'est nimpe. Il y a quoi d'autre ? Une fois arrivé en Asie, il y a plein de guest house où il y avait des punaises de lit et c'était plutôt cool parce que j'étais allergique, donc j'avais la réaction immédiate. Genre, je me posais dans le lit 10 minutes et j'avais des boutons et je me disais que c'était ça. En effet, en général, je l'ai trouvé après. J'avais ma petite technique anti-parasite qui était de me mettre en short et en t-shirt, de me poser sur le lit où j'allais dormir, de rester zonée pendant 15 minutes, de me checker après si j'avais des boutons, que ça commençait à me gratter, de partir. Et de laver mes trucs, mais du coup il n'y avait pas trop de machines à laver accessibles, donc je prenais de l'eau bouillante et du coup je mettais mon short et mon t-shirt dans de l'eau bouillante après. Je relis mes carnets de voyage là et j'ai plein de notes sur qu'est-ce qu'il faut faire pour se débarrasser des trucs et tout. Enfin, il y a comment tuer ces cochonneries. La glace. À moins 17 degrés pendant 2 heures, ça tue toutes les punaises de lit, y compris les œufs, donc 12 heures au congélo. Le dryer, du coup, c'est le sèche-linge, à 40 degrés pendant 30 minutes, selon la durée. En vrai, j'étais poquée, ah ouais. Quoi. Après, j'ai fait un petit encart sur les chiffres sur ces ignobles bestioles. Elles pondent 400 œufs à 500 œufs en une vie, soit 5 à 15 œufs par jour. Elles mangent du sang tous les 4 jours, mais elles peuvent survivre 2 ans sans se nourrir. C'est hardcore. Du coup, je conclue en disant, bref, c'est des cochonneries et il m'aura fallu une journée avant de me détendre et de prendre un peu moins la chose au sérieux. Après avoir fait tout un tas de recherches sur Wikipédia, quoi. Et dans un autre voyage, ça m'était arrivé, du coup, je revenais à Paris, j'étais en flip de contaminer l'appart de ma pote chez qui j'allais dormir. J'étais arrivée, je m'étais mise en slip devant l'appart, j'avais tout mis dans des sacs poubelles, elle m'avait donné des fringues propres, et on avait gazé le truc dans des sacs poubelles. Je crois que c'est 48 heures qu'il faut les laisser, mais c'était... Ouais. J'avais fait ça, après j'avais tout mis dans le lavomatique à la température la plus forte en me disant de toute façon, soit je fais ça, ça marche, soit je brûle toutes mes affaires parce que j'en peux plus, quoi. Et du coup, ça avait marché. Ça, c'était l'épisode punaise de lit. La deuxième marche du podium. Et la première marche du podium. En fait, je sais même pas qui c'est exactement le podium numéro 1 parce que j'ai pas identifié ce que c'était. Là, ça va commencer à être dark de parler de ça. Ça va parler de caca. Trigger warning. Donc, j'étais sur mon petit vélo. Et en fait, depuis quelques semaines ou mois, je me rappelle plus trop, mais ça avait duré bien longtemps avant de m'inquiéter. Parce qu'au début, je me disais que c'était le changement d'alimentation et tout, mais je faisais des cacas bizarres, avec des glaires un peu dedans. Hardcore. Et donc, une fois arrivée à Bangkok, qui est la capitale de la Thaïlande, je me suis dit que j'allais voir un médecin et que... Enfin, là-bas, j'ai trouvé un médecin, du coup, qui pouvait parler français, ce qui facilitait un peu le fait d'expliquer son problème, quoi. Du coup, il m'a demandé de faire une coproculture. C'est un examen qui consiste à faire caca dans une boîte et à l'envoyer dans un laboratoire pour qu'il check qu'est-ce qu'il y a dans ton caca.
Donc ça, ça impliquait de rester un peu longtemps à Bangkok, en plus.
Bah, pas tant, parce que je crois que je me rappelle du moment où je l'ai fait. Enfin, du coup, je me rappelle d'être sortie, d'être un peu paniquée, de me dire « faut que je le fasse vite ». Et du coup, je pense que ça impliquait quand même le fait d'être à côté d'un laboratoire pour pouvoir le déposer rapidement, parce que ça doit pas... Enfin, ça doit soit rester au frais dans un frigo... Bon. En auberge, c'est pas ouf.
Oui, c'est des frigos partagés, quoi.
Et du coup, bah, ou bien de le donner rapidement, quoi. Donc, en gros, j'étais allée dans un bar à côté. J'avais bu à balle de café. J'avais fumé à balle de clope jusqu'à avoir envie de faire caca. J'avais fait ma coproculture directement. Ça, c'est fait. Et du coup... quelques jours plus tard, j'ai reçu le mail du médecin qui me donnait les résultats, quoi. Il n'y avait rien. Du coup, j'étais là, bon, bah tant pis, ça doit être l'alimentation, quoi, on verra. Un mois plus tard, je devais être quelque part en Malaisie. Mon frère, il nous avait rejoint en voyage. Et là, c'est dégueulasse ce qui s'est passé. C'est qu'on était en train de camper. Et puis le lendemain matin, j'ai envie d'aller aux toilettes, mon frère aussi, on se dit, on campait sur une plage en mode camping sauvage, quoi. On se dit que chacun trouve son petit spot et tout. Et du coup, je me trouve un spot, je fais caca, et là je vois mon caca et je vois des trucs dans mon caca. Et ça, c'était dégueulasse, mais vraiment genre... à la sensation, c'était horrible, quoi, parce qu'en plus on était au milieu de nulle part. Et du coup, y a personne, enfin, y a pas de médecin à qui aller voir, enfin, y a que dalle, quoi. Et du coup, j'ai hurlé. Et mon frère est venu. On check les hôpitaux qui sont le plus proches, quoi, mais c'était à un jour de vélo, genre à une soixantaine de bornes, quoi. Du coup, je me suis retrouvée pendant tout le trajet à me dire, j'ai des choses vivantes dans mon corps, c'est horrible. Je suis arrivée aux urgences. Il y avait des personnes qui étaient là devant le comptoir, quoi. Il y avait une dizaine de personnes. Une personne qui avait l'air plus âgée, d'autres personnes qui avaient l'air d'avoir mon âge, et du coup j'en concluais qu'ils étaient peut-être étudiants. Et donc j'explique à la première personne qu'est-ce qui se passe et pourquoi je consulte, quoi. Enfin, pourquoi je veux voir un médecin. Les autres personnes derrière comprennent pas, du coup demandent à la personne qu'est-ce que j'ai dit. Et du coup le message se transmet de personne en personne, et chaque personne me regarde, mais en chuchotant, quoi, en voulant être discret, mais à la fois genre, je sais ce qui se dit jusqu'au bout de la file, quoi. Et du coup jusqu'au moment où tout le monde me regarde d'un air compatissant en disant oui oui ok, on va vous faire voir un médecin. Et au fait il y avait ça, j'avais d'autres trucs, je sais pas si on peut appeler ça un parasite aussi, mais... J'avais touché un corail de feu sur mon pied, et ça c'est hardcore aussi, ça fait une espèce de brûlure qui continue. Et je crois que c'est des bouts de corail qui continuent de se développer, il faut mettre une crème, moi je mettais du citron et du gingembre, je crois, j'ai fait ça pendant un mois et c'est parti. Mais du coup il y avait ça aussi, donc je leur ai expliqué les deux problèmes. Du coup, je vois un médecin qui me prescrit des trucs, je vais à la pharmacie, et là, la personne, elle me donne juste une crème, quoi. Et du coup, je dis « Ok, mais il y a autre chose. » La personne me dit « Non, non, il n'y a rien. »« Si, si, il y a un autre truc que je dois avoir, quoi. » Enfin, ça, c'est la crème pour le corail, quoi, mais j'ai des vers dans mon caca, et faites quelque chose, quoi. » Elle a rappelé le médecin, et elle a fini par me donner un traitement. Et en fait, après, ça s'est empiré. J'ai bu l'espèce de produit liquide qui était censé traiter le truc. Et après, je suis partie. Et dans les semaines qui ont suivi, j'ai eu des gros soucis de, pareil, de glaire dans les selles, mais avec un peu de sang, tu vois, un truc qui devenait flippant. J'avais envie de vomir, j'étais pas bien et tout. Et du coup, j'ai envoyé un mail au mec avec des photos de mon caca. Et genre là, tout à l'heure, quand j'ai revu le mail, j'étais là, non, j'ai fait ça, j'ai envoyé des photos de mon caca au médecin. Et du coup, avec des hypothèses diagnostiques en disant, mais qu'est-ce que ça peut être ? Enfin, bref. Et du coup, il m'a donné des conseils par mail en disant, je prends. Enfin. Il disait que ça pouvait être des ascaris, ou le ténia, ou un autre truc, je sais plus lequel. Et du coup, que si je prenais le traitement pour le ténia, ça dégommait aussi tous les autres. Et je l'ai acheté, et je l'ai pris. Et puis après, ça a disparu, quoi.
Non, tu sauras jamais ce que c'était.
Ben non. Et ouais, j'ai eu un petit moment de vraiment où je voulais savoir quel parasite m'habitait, quoi. Mais ça restera un mystère. Putain, j'avais écrit beaucoup. Ah oui, j'avais nommé mon verre, il s'appelait Brick. Ça commence par le 6 juillet. Du coup, il y a résumé, hypothèse numéro 1, le ténia. Avec tout un tas d'infos sur le ténia. Et comment il se développe et qu'est-ce qu'il fait. Et notamment qu'il a des scolex. C'est des petites ventouses qui lui permettent de rester accroché à ta paroi intestinale. Fact à propos du ténia. On peut en avoir plusieurs dans un intestin. Il peut mesurer de 4 à 10 mètres. Et le ténia, comme tous les cestodes, est hermaphrodite. Et du coup, je me suis arrêtée sur évacuation d'un ténia, 2 points, page blanche. Je repars avec un shot de 10 ml de vermisol que je bois d'une traite, heureuse du génocide que j'entame. Je me rappelle d'avoir chiné avec des gens avec qui j'étais en mode « À la santé de Brick !» Et voilà. En relisant les carnets, là, j'avais complètement oublié. Je m'en rappelle comme une anecdote, quoi, mais j'avais oublié que ça avait pris quand même plein de place. Parce que c'est un truc quand même qui s'est déroulé sur plusieurs mois. Et qui m'inquiétait pas en continu, mais qui était là, quoi. Et en fait...
Il y avait un frelon rouge et une assiette rouge aussi dans le lit.
Les menstruels, correspondance éclatée à X voix.
Tic, tic.
Gymnastique sonore, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez entendu Parasite, la dernière émission du collectif Les menstruels, que vous pouvez retrouver sur nos ondes tous les 2 mois. Pour retrouver les archives de l'émission, rendez-vous sur canalb.fr et pour suivre les actualités de Bande Magnétique, rendez-vous sur les réseaux. À bientôt!
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.